On avait terminé un peu rapidement la dernière fois le topo, après avoir évoqué ce qu'étaient les charismes, après en avoir décrit quelques-uns, et puis on avait prévu donc de préciser quelles pouvaient être les dispositions du cœur pour exercer les charismes. On a pas mal de choses à dire aujourd'hui, on va peut-être les citer un peu rapidement, on pourra revenir s'il y a des questions. Mais ces dispositions, elles sont toutes simples, en fait, comme toujours avec le Seigneur. La première disposition, c'est un cœur qui écoute. Ça veut dire que si la voix du Seigneur est parfois un bruissement qui nécessite notre attention. Donc le Seigneur parle au cœur qui écoute. Ça veut dire que le Seigneur parle aussi par un cœur qui est... dans une certaine forme de paix. En tout cas, la voix du Seigneur a du mal à se faire entendre dans l'agitation de nos pensées, dans l'agitation, dans l'éclatement parfois de notre cœur. C'est une chose importante. La deuxième disposition, peut-être, c'est de demander la disponibilité pour exercer le charisme. Le charisme ne s'impose pas à nous. Le Seigneur ne force jamais notre liberté. Il n'a pas besoin de nous, mais il veut parfois avoir besoin de nous. Et pour ceci, il faut que l'on consente. Ça veut dire concrètement que si j'ai une exhortation, une parole qui me vient du Seigneur, que je pense qu'elle est pour le bien commun et pour l'Assemblée, eh bien, il va falloir que je pose un acte. Et l'acte, c'est d'ouvrir la bouche. Troisième disposition, c'est la soumission aux frères. Le charisme est communautaire. Dans sa dimension, il est fraternel, il s'exerce. Il s'exerce pour l'édification du corps, pour le bien commun. Et du coup, il est bon de pouvoir le soumettre, le faire confirmer. Ça vous parle, ce terme, ou c'est un peu jargon ? Confirmer, ça veut simplement dire que je ne suis pas propriétaire, bien sûr, de ce charisme, et j'ai donc besoin que les frères disent « oui, je crois que ça, tu vois, ça vient du Seigneur ». Voilà, bon, quelques pistes. Le thème aujourd'hui, c'est l'effusion de l'esprit. On va revenir un petit peu plus précisément sur ce qu'est l'effusion de l'esprit.
Alors, on voulait commencer par une petite phrase de Pierre Goursat, dont on a parlé hier, hein, qui est le fondateur de la communauté de l'Emmanuel. « Maintenant, le Saint-Esprit vient. Alors, il faut s'en servir. Le Saint-Esprit, on l'a théoriquement, mais pratiquement, on ne s'en sert pas. C'est un beau cadeau qu'on nous a fait. On dit, il est très beau. Mais on le remet dans l'armoire, comme les potiches, et on dit, on s'en servira pour les grands jours. » Comme le service de table des grands jours. On pense que si on s'en sert tout le temps, on va le casser. Le Saint-Esprit, il faut s'en servir tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et après, vous ne pouvez plus vous en passer.
Voilà, donc trois parties aujourd'hui. La première partie, nous réexpliquerons cette démarche d'effusion d'Esprit Saint. Dans la deuxième partie, nous verrons les fruits de cette effusion, les fruits de l'effusion d'Esprit Saint. Et dans la troisième, nous verrons comment, une fois l'Esprit Saint demandé, enfin le renouvellement demandé par cette démarche d'effusion, comment tenir dans la durée et porter du fruit. Première précision, on l'a déjà dit, c'est important de le rappeler pour qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté, l'effusion de l'Esprit Saint n'est pas un sacrement. Vous savez que les sacrements nous sont donnés... par le Christ qui les a confiés à son Église. Les sacrements ont un caractère objectif, ils sont un signe efficace donné par le Christ qui, à travers le sacrement, se communique objectivement, qu'on le sente ou non, bien sûr. Quand on se met intérieurement dans de justes dispositions pour recevoir ce sacrement, la grâce est donnée de façon indubitable. Le propre de l'effusion de l'esprit,